Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et il est 5h30 en temps universel. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. Au micro, Nanit Talani en direct de la capitale américaine. On vous en dit plus dans les prochaines minutes, mais en attendant, voici les principales articulations de ce rendez-vous sur l'actualité. Ce soir, coup de projecteur sur l'opposition camerounaise qui se réorganise avec Joshua aussi, qui prend les rênes du SDF. Pour parler de Jeddah, les belligérants soudanais se concentrent sur un cessez-le-feu et l'aide humanitaire. Violent combat en cours à Gaza, l'ONU s'inquiète de l'ordre public. Le père du footballeur Luis Diaz de Liverpool, enlevé en Colombie, plus de 120 soldats et des policiers mobilisés. Dans la partie magazine, nous ferons le cap au Gabon, où le Parlement de transition peut enfin commencer son travail après le rejet des recours pour vice de forme. Et puis Yaoundé au bord du chaos, le Premier ministre camerounais lance un plan de rénovation urbaine pour restaurer la beauté de la capitale. Puis, dans quelques 10 minutes, vos rendez-vous habituels avec les nouvelles sportives et l'économie, avec notamment le lancement du projet de développement et d'amélioration du portail commercial en Afrique de l'Est. En attendant, voici le journal. Au Cameroun, Joshua aussi a été élu hier président du SDF, Social Democratic Front, l'un des deux principaux mouvements de l'opposition de ce pays dirigé depuis plus de 40 ans par Paul Biya. Alexandrine Rolognon.
Joshua aussi, 54 ans, jusqu'alors premier vice-président du parti, succède à John Frondi, décédé le 12 juin, après avoir présidé le SDF depuis sa création en 1990. Le SDF est le premier mouvement d'opposition représenté à l'Assemblée nationale, avec 5 sièges sur 180, dans une chambre archi-dominée par le parti du président Paul Biya. Lors de la présidentielle 2018, le SDF a enregistré le pire score de son histoire, Joshua aussi ne recueillant que 3,35% des voix. C'est le MRC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun, qui s'est alors positionné comme premier parti de l'opposition, son leader Maurice Kamto recueillant 14,23% des suffrages contre 71,28% à Paul Biya. Maurice Kamto avait été emprisonné 9 mois sans procès en 2019 pour des manifestations pacifiques contre le pouvoir et n'avait été libéré qu'au terme de pressions internationales. Le MRC, dont 44 cadres et militants sont encore emprisonnés, n'a pas d'élu à l'Assemblée parce qu'il a boycotté la législative de 2018.
Les négociations que tiennent les belligérants soudanais dans la ville saoudienne de Jeddah se concentrent sur un accord de cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire, mais pas sur des questions politiques plus larges, a indiqué l'Arabie saoudite hier. Michel Joseph.
Les pourparlers qui ont repris jeudi visent à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, établir un cessez-le-feu et d'autres mesures de confiance et à progresser vers une cessation permanente des hostilités, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les pourparlers n'aborderont pas de questions politiques plus larges, ajoute-t-il. Des représentants des pays de l'IGAD, le bloc de l'Afrique de l'Est, composé du Kenya, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, participent aux discussions de Jeddah au nom de l'Union africaine. Le département d'État américain a déclaré hier que ce sont les civils soudanais qui doivent définir la voie à suivre pour le Soudan. Il n'existe pas de solution militaire acceptable à ce conflit, dit-il. Depuis avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait plus de 9000 morts, d'après un bilan très sous-évalué de l'ONU. Elle a déplacé plus de 5,6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures.
La RDC a dépensé 324 millions de dollars pour accueillir les Jeux internationaux de la francophonie en juillet, soit 7 fois plus que prévu, a annoncé le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Malgré le report des Jeux de 2 ans, la RDC a dû précipiter la construction des installations sportives, ce qui a contribué aux importants dépassements de coûts, selon le ministre, citant des problèmes d'efficacité et de planification comme facteurs clés. Cependant, le directeur des Jeux, Isidore Kouandjangimbo, a déclaré que son comité n'était pas informé des 324 millions de dollars et qu'il avait convenu d'un budget d'environ 66 millions de dollars pour ses activités, mais qu'il n'avait pas reçu l'intégralité de cette somme. Certains employés et prestataires de services attendent toujours d'être payés. Ce dépassement de budget est préoccupant et devrait faire l'objet d'une enquête, a déclaré Jean-Claude Mpoutou, porte-parole d'un groupe de travail de l'Union européenne sur les Jeux olympiques. Au Sénégal, la justice a ouvert une enquête après l'exhumation du cadavre d'un homme enterré au cimetière de Kaolack, à quelques 200 km au sud-est de Dakar, avant d'être traîné et brûlé par des hommes non identifiés samedi soir, a annoncé dimanche le procureur de la République, Abbas Yayaouane. Ces actes, d'une extrême gravité, relevant de la barbarie, interpellent les autorités et ne peuvent rester impunis. Une enquête est ouverte afin d'identifier les auteurs et engager contre eux des poursuites pénales, écrit le procureur cité dans un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza hier dimanche via le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte, a indiqué le CHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il s'agit du convoi le plus important à pénétrer dans le territoire palestinien assiégé depuis la reprise limitée de l'acheminement de l'aide humanitaire le 21 octobre, a précisé le bureau onusien. Bien que cette augmentation soit bienvenue, un volume d'aide beaucoup plus important est nécessaire sur une base régulière afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire désastreuse, y compris des troubles civils, a indiqué OCHA dans un rapport quotidien sur la guerre entre Israël et le Hamas. Le Hamas justement a affirmé hier soir que de violents combats sont en cours avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza où l'ONU craint l'effondrement de l'ordre public après des pillages de centres d'aide alimentaire. Des détails avec Jacques Aristide.
Les appels se multiplient pour laisser passer le soutien humanitaire à destination des civils palestiniens à Gaza, soumis à des bombardements incessants de l'armée israélienne déclenchés par l'attaque du Hamas au début du mois. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le conflit est entré dans une deuxième étape. Premier soutien d'Israël, politique et militaire. Les États-Unis ont appelé leur allié à prendre toutes les mesures possibles à sa disposition pour faire la distinction entre le Hamas et les civils, a déclaré hier Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde contre un écroulement de l'ordre public dans la bande de Gaza au lendemain du pillage d'entrepôts et de centres de distribution d'aide alimentaire qu'elle gère. Lors d'un appel, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chef de l'État français Emmanuel Macron ont insisté sur la nécessité d'un soutien humanitaire urgent à Gaza.
Les négociations entre l'Union européenne et l'Australie ont échoué à déboucher sur un accord de libre-échange cette semaine, malgré l'espoir d'une conclusion rapide, ont indiqué Bruxelles et Canberra. Un ministre australien estime qu'il faudra plusieurs années avant une reprise des pourparlers. Ce dernier cycle de négociations était organisé en marge d'une réunion du G7 au Japon. Malgré la volonté affichée par les États-Unis et l'Union européenne d'être moins dépendants de l'industrie chinoise pour leurs propres approvisionnements, la Chine devrait voir sa part augmenter dans les emplois manufacturiers mondiaux d'ici à 2050, révèle une étude du Centre pour le développement mondial de Washington. En Colombie, plus de 120 soldats appuyés par des policiers ont continué ce dimanche à chercher le père du footballeur star du Liverpool, Luis Diaz, kidnappé avec son épouse par des hommes armés à moto alors qu'il se trouvait dans une station-service de leur ville. La mère a pu être libérée par les forces de l'ordre samedi, quelques heures après le rap. L'armée a mis en place des checkpoints et mobilisé des hélicoptères et un avion radar pour tenter de retrouver Luis Manuel Diaz. Et puis, l'otage pourrait toutefois être au Venezuela voisin, a averti le procureur général Francisco Barbosa. Toujours en Colombie, la gauche a subi hier dimanche une lourde défaite dans les principales villes du pays lors d'élections locales pour la période 2024-2027 selon le décompte officiel des bulletins de vote. Avec un taux de participation de 55%, la gauche a été battue dans les villes de Bogota, Cali et Barranquilla. Au pouvoir depuis août 2022, la coalition de gauche du pacte historique du président Gustavo Petro a largement été boudée dans les urnes. Par ailleurs, le ministère de la Santé de la République du Caucase russe fait état de blessés sans en préciser le nombre après l'incident qui a eu lieu à l'aéroport de Daghestan. Des dizaines d'hommes ont pris d'assaut dimanche durant plusieurs heures plus tôt le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhtchakhta, la capitale de la République russe à majorité musulmane, apparemment à la recherche des passagers d'un vol en provenance d'Israël. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
La société chinoise Jizhing Mining veut développer avec la RDC et toutes les parties prenantes locales la mine congolaise de lithium de Manono, l'un des plus grands gisements de roches dures du monde, après avoir obtenu les droits de développement. Le permis était initialement détenu par l'entreprise australienne AVZ avant sa révocation par le ministère congolais des mines, car AVZ tardait à développer le projet. AVZ dit avoir contesté cette décision et mené des négociations avec Kinshasa pour l'octroi de la licence minière et la résolution des arbitrages avec les entités contrôlées par la RDC. Le Zimbabwe décide de maintenir son système multimonnaie ancré sur le dollar américain jusqu'en 2030 au lieu de 2025. Le dollar zimbabwéen étant affaibli de plus de 80% en 2023. Le règlement de toute transaction ou paiement de biens et de services en devises étrangères sera donc valable jusqu'au 31 décembre 2030. La BAD s'associe à la communauté de l'Afrique de l'Est et à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour lancer un projet de développement et d'amélioration du portail commercial en Afrique de l'Est. Le projet, d'un montant de 1,56 million de dollars, soutiendra les solutions commerciales numérisées afin de réduire les barrières commerciales et permettre à la sous-région de remplir ses obligations dans le cadre de l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges.
Maintenant, la page sportive avec Élisée. Bonjour Élisée.
Bonjour Nanita et bonjour à tous.
Pour commencer, en rugby, l'Afrique du Sud conserve son titre de champion du monde.
Oui, et c'est suite à sa victoire en finale au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande 12-11. Comme en quart et en demi-finale, les Springboks se sont imposés sur le fil et soulèvent ainsi le trophée pour la deuxième fois consécutive, portant à 4 leur nombre de titres mondiaux, 1995, 2007, 2019 et 2023. Une sacrée performance. À noter que l'Afrique du Sud n'a jamais perdu en finale de Coupe du Monde de rugby.
De la balle ovale, on passe à la balle au panier avec l'élite 16 de la Basketball Africa League.
L'avant-dernière étape avant la phase finale prévue à Kigali l'an prochain. Les 16 équipes qualifiées ont été réparties dans les deux divisions Ouest et Est. Et c'est la division Ouest qui donne le coup d'envoi ce mardi à Yaoundé au Cameroun. 8 équipes réparties dans deux groupes de 4. La poule A réunit les forces armées et police du Cameroun, le stade malien de Bamako, Al Ahly Benghazi de la Libye et ASB Virunga de la RDC. Dans le groupe B, nous avons les Guinéens de Slack, les Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club, les Centrafricains de Bangui Sporting Club et les Marocains du FUS de Rabat. Le premier match se jouera entre le stade malien et Al Ahly Benghazi.
En football, les demi-finales allées de la Ligue africaine de football ont eu lieu hier, dimanche.
Et petit avantage pour le Mamelodi Sundowns et le Wydad de Casablanca qui ont assuré l'essentiel à domicile. Les Sud-Africains et les Marocains se sont imposés 1-0 respectivement face à Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis. Les matchs retour auront lieu mercredi prochain.
Enfin, pour terminer, Élisée, du cyclisme avec la troisième étape du Tour de Faso.
Oui, une troisième étape réduite à 138 km est courue sur un circuit fermé à Ouagadougou, remporté par le Belge Rutger Wouters. Il récupère du même coup le maillot jaune de leader chez le Burkinabé Paul Demont. Au programme ce lundi, la quatrième étape entre Ouagadougou et Koupéla, longue de 136,8 km.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour nos dossiers du jour. Au Gabon, le Parlement de transition peut enfin commencer son travail. Un juriste et une dizaine de partis politiques avaient dénoncé les décrets nommant des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais leur requête n'a pas prospéré car la saisine devrait être accompagnée par la copie de l'acte querellé, ce qui n'a pas été fait. La rentrée dans les deux chambres suscite des réactions à Libreville, nous dit notre correspondant Ismaël Obianze.
98 députés et 70 sénateurs nommés par décret du président de la transition entrent en fonction ce lundi. Ce parlement d'exception suscite déjà d'énormes attentes. Oyemge, étudiant.
Ce que le peuple gabonais attend de ce parlement de la transition, c'est que justement le président de la République tienne sa parole en la promesse qu'il avait faite aux Gabonais de restaurer toutes les institutions de la nation. Voilà. Y compris l'Assemblée nationale, bien évidemment, même si aujourd'hui il y a un peu de couac avec les différentes nominations des uns et des autres.
Plusieurs cadres du régime déchu sont de retour et font leur entrée dans ce Parlement. Et les nominations faites exclusivement par le président de la transition font polémique. Riki Ngemeyi, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo.
On ne changera pas grand-chose. Enfin, quand on est pourri, on est pourri. Voilà. Bon, maintenant, il y a forcément des gens de bonne volonté. Enfin, dans ce nouveau Parlement, il y aura forcément des gens de bonne volonté qui feront correctement leur boulot. Sauf que, quel pourcentage représente-t-il au sein du Parlement? Ces gens qui veulent véritablement le bien du peuple.
Pour Dr Frédéric Mbamissan, autre universitaire, la force du Parlement de transition repose sur son caractère inclusif.
On trouve à l'intérieur de cette Assemblée non seulement les hauts cadres de la République, les religieux, la diaspora et même les activistes y sont. Vous comprenez que c'est à ce titre-là que les Gabonais attendent que le débat soit effectivement bien animé et surtout bien orienté au profit de la société.
Face à l'optimisme de certains sur le profil de nouveaux parlementaires, Dr Jean Delors-Biogué invite plutôt les députés et sénateurs à plus de lucidité lors des débats relatifs à la réforme des institutions. Jean Delors-Biogué est politologue.
Ce n'est pas un endroit où les parlementaires vont jouer les jeux politiciens. Ce n'est pas non plus un lieu où les parlementaires vont essayer de jouer les équilibres idéologiques. C'est vraiment bâtir les fondamentaux de la République. Et à ce niveau, ils doivent être le plus objectif possible, les plus patriotes possible, pour que le Gabon nouveau ne ressemble pas au Gabon que nous venons de décrire.
Le Parlement d'exception, qui s'est réuni donc pour la première fois aujourd'hui, a pour mission de veiller à l'exécution, au contrôle, au suivi du plan d'action et de la feuille de route de la transition. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
VOA Afrique, en direct de Washington. Route endommagée et mal entretenue, dépôt anarchique d'ordures ménagères. Yaoundé, la capitale du Cameroun, offre un visage hideux aux yeux des résidents et visiteurs. Au terme d'une réunion de crise, le Premier ministre Joseph Dion Nguté a instruit les membres du gouvernement et les autorités municipales à redonner une meilleure physionomie à la capitale. Le point avec notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
Il y a 13 ans, l'État a signé un contrat avec la Société d'hygiène et de salubrité ISACAM pour le ramassage des ordures et déchets ménagers. Ce partenaire dit désormais manquer des moyens nécessaires pour enlever plus de 2500 tonnes d'ordures quotidiennes à Yaoundé. Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local.
Pour ce qui est de la question des ordures, le nombre d'acteurs qui interviennent, le niveau de responsabilité qu'il faut accorder à chaque échelon doit être revu pour que cette question soit traitée au plus près.
L'insalubrité n'est pas l'unique facette hideuse de la capitale politique Yaoundé. Il y a aussi le mauvais état des routes au centre-ville ainsi que dans plusieurs quartiers. Sandrine Assiené, une étudiante résidente dans la capitale.
Lorsqu'il pleut, il y a vraiment beaucoup de boue. Apparemment, on n'a pas investi assez pour qu'on puisse vraiment avoir des routes goudronnées.
Ce constat n'a non plus échappé au maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, lors de la réunion de crise avec le Premier ministre.
La voirie de Yaoundé est en mauvais état, caractérisée par la présence des nids de poules, des fissures sur les chaussées. Dans l'immédiat, que ces nids de poules soient traités rapidement par les mairies, en commençant par la mairie de la ville et les mairies d'arrondissement.
L'entretien des routes urbaines connaît ainsi quelques défaillances. Célestine Kechakourtès, ministre de l'Habitat et du développement urbain.
Avec une pression foncière urbaine, il faut dire également que ces populations s'installent de manière anarchique et les voies utilisées sont hyper sollicitées et malheureusement sont vieillissantes. Notre voirie souffre également du manque d'entretien, du manque de moyens, des effets de changement climatique.
L'une des solutions envisagées sur la question des ordures est la gestion décentralisée de la collecte et l'enlèvement des ordures. Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local.
Il faudra faire intervenir un grand nombre d'acteurs et que nous soyons dans un environnement où on n'observe plus les dépôts sauvages d'ordures sur nos routes.
Et parmi ces nouveaux acteurs, il y a les chefs des quartiers, Germain Etundi Atangana, chef de troisième degré dans le troisième arrondissement à Yaoundé.
Vous savez que les chefs professionnels vivent au quotidien avec les populations et il est donc question de les moraliser, de les éduquer à recycler leurs ordures parce que c'est eux les producteurs au départ.
Pour doter la capitale de nouvelles routes praticables, le gouvernement envisage former des ingénieurs des communes à la fabrication du béton compacté afin de contourner l'option du bitume plus onéreux. Mais dans ce pays, que ça coûte plus cher ou bien moins cher, il faudra toujours veiller à ce que l'argent du contribuable serve réellement à résoudre les problèmes des citoyens et non pas servir quelques-uns à s'en mettre plein les poches. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde s'est terminé le week-end à Brazzaville, au Congo, sur un appel à construire une coalition des trois grands poumons verts lors des négociations avec les pays développés qui ne réalisent toujours pas leurs promesses de compensation financière. Si les hauts dirigeants des deux autres bassins, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong, ne se sont pas rendus à Brazzaville, leurs représentants ont par ailleurs affiché la détermination de travailler ensemble pour faire face au dérèglement climatique. Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
De la quinzaine d'allocutions prononcées à la tribune de ce sommet, on retiendra un appel à la coalition des trois bassins pour mieux mener les négociations face aux pays développés, mais pollueurs. L'Union africaine s'est dû d'ailleurs vivement préoccupée par les conséquences du dérèglement climatique. C'est pourquoi les participants au sommet de Brazzaville ont réclamé des compensations financières auprès des pays développés. Le général gabonais Brice Clotaire Olingi Nguema.
Conscient de la valeur inestimable des services que ces forêts rendent à ces populations et à l'ensemble de l'humanité, le Gabon estime que l'heure est arrivée à la communauté internationale de soutenir en retour ces efforts.
La RDC, le plus grand pays du bassin du Congo avec 70% des forêts, veut jouer le leadership dans la coalition à venir. Félix Tshisekedi appelle à plus de solidarité.
La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, mon pays, qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique, entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel.
Denis Sassou Nguesso, l'hôte du sommet, a estimé que la survie n'était possible que si les trois bassins restaient ensemble.
Un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des trois bassins. La mise en œuvre d'un plaidoyer commun sur la base d'une stratégie commune pour anticiper et préparer les requêtes de financement auprès des mécanismes existants et à venir.
Les présidents brésiliens Ignacio Lula da Silva, français Emmanuel Macron et le secrétaire général des Nations Unies en visioconférence ont salué l'étape de Brazzaville pour matérialiser leur volonté. Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 50 millions de dollars l'année pour aider le Congo-Brazzaville à préserver ses forêts et sa biodiversité. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. Au Bénin, malgré le cadre normatif et les investissements du gouvernement, la fracture numérique entre hommes et femmes reste un défi à relever. Néanmoins, quelques-unes arrivent à sortir la tête de l'eau en se donnant les moyens de prouver ce dont elles sont capables en matière d'innovation technologique. Les détails de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adondé.
Elles sont nombreuses, ces femmes qui creusent leur sillon dans le monde des innovations technologiques en évoluant dans des métiers entre-temps chasse-gardés des hommes. Parmi elles, Doria Ray, elle est la fondatrice de Service Plus, une entreprise qui accompagne les citoyens dans leurs différentes démarches administratives digitalisées. De ses expériences précédentes, elle retient que les hommes ont encore du mal à voir les femmes dans le milieu.
La première fois où j'ai commencé à travailler, mes collègues hommes, puisque j'étais toujours la seule femme, j'ai été la seule femme pendant pratiquement deux ans et demi. Et en plus, j'étais la seule femme à gérer des hommes. Donc, c'était pas évident. Je sais qu'ils m'ont dit au cours d'un repas, un an et demi, deux ans après, ils se sont dit, mais c'est qui cette fille qui vient avec sa veste et ses talons et qui veut venir faire en griffe un peu le chef Fayon.
Au Bénin, les autorités ainsi que les organisations de la société civile encouragent les filles à choisir des métiers comme celui du community manager, de rédactrice web, de social media manager, de web designer, de juriste en cybersécurité, de gestionnaire de projets numériques, pour ne citer que ceux-là. Certaines comme Nadia se laissent facilement convaincre même si elles se heurtent au refus et à l'incompréhension de leurs proches.
Les parents ne voulaient pas, certains amis, surtout mon père, ne voulaient pas que je fasse cette filière. Vu l'impact des parents, j'ai finalement décidé de m'inscrire dans une filière d'enseignant, c'est la physique-chimie, comme le voulait mon père, dans l'espoir qu'à la fin, je puisse migrer vers les innovations technologiques et bien même si possible, vers l'intelligence artificielle.
Pour Anaïs, qui est secrétaire de direction, les femmes donnent le meilleur d'elles-mêmes quand elles exercent des métiers assez flexibles.
Pour les secteurs d'activité dans lesquels il y a beaucoup de femmes, c'est les secteurs qui sont liés un peu au rôle domestique ou au côté maternel de la femme. C'est pourquoi là où les activités pour lesquelles il est demandé ou il est nécessaire de déployer beaucoup d'énergie physique, vous verrez peut-être pas de femmes ou moins de femmes. Les activités qui ont tendance à faire ramener un peu trop de penchant, je vais dire sentimental, ne verrez pas les hommes.
Malgré le déficit, Barkatou Sabiboun, qui est une scientifique, pense que des efforts sont faits et méritent d'être encouragés afin que les femmes cessent de voir le secteur du numérique comme un monde exclusivement masculin.
Beaucoup ne viennent pas à la science peut-être parce qu'elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas que c'est un secteur en fait qui regorge d'opportunités. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui arrivent au doctorat, on a de plus en plus de femmes qui sont dans la recherche, dans les laboratoires. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'investissent et qui ne s'arrêtent pas en fait au niveau moyen et qui ont envie de se spécialiser.
Ce tableau reluisant est spécifique pour le milieu urbain. Dans le monde rural, plusieurs facteurs comme la non-disponibilité continue de l'énergie électrique, de la connexion Internet, la méconnaissance des métiers qu'offre le secteur, hypothèquent encore la chance des femmes à s'intégrer dans la génération numérique. De Cotonou, Ginette Fleur-Adané pour VOA Afrique.
C'est la fin du monde aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci à toute la rédaction qui a contribué à sa réalisation. Un grand merci à Michel Joseph qui était à la réalisation et à Kelvin Fowler qui était à la console au micro. Nanit Talani, pour ne rien manquer de l'actualité, nous vous invitons à rester connectés sur notre site internet voaafrique.com et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X, Instagram et YouTube pour plus d'informations. 24 heures sur 24, excellente journée à vous. Au revoir et à très bientôt.